5 de Canal Plus.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du lundi 18 juillet 2022. Jean-Roger Villon à ce micro, bonsoir à tous, à la une de nos informations. L'Union européenne veut poursuivre sa pression sur Moscou avec de nouvelles sanctions et un soutien financier et militaire à l'Ukraine. Canicule en Europe, il fait si chaud que la ville de Brest en France fait de la concurrence à Gao dans le nord du Mali. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad déplore l'abandon de l'accord de paix d'Alger par les autorités de la transition. Au Burkina Faso, des individus armés ont fait sauter les ponts et isolent davantage les villes de Djibo et de Dori dans la région du Sahel. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. L'Europe connaît une deuxième vague de chaleur sans précédent en un mois à peine. Selon les scientifiques, il s'agit d'une conséquence directe du réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence. Le point avec Nani Talani.
Pour la première fois, l'Agence de sécurité sanitaire britannique a émis une alerte de niveau 4, le plus élevé, mettant en garde contre les risques que la chaleur fait peser, même sur les personnes jeunes et ou en bonne santé. Demain mardi, les températures les plus chaudes pourraient dépasser pour la première fois les 40 degrés Celsius. Les écoles de certains comtés sont fermées. En France, 15 départements sont en vigilance rouge pour la canicule et un premier record historique de température est battu à Brest avec 35,8% contre 35,2% enregistré en 1949. Quelques 8000 personnes sont en cours d'évacuation préventive d'une ville très touristique d'Arcachon, touchée par un immense incendie. La Gironde est frappée par deux gigantesques feux depuis une semaine qui ont déjà brûlé plus de 13 000 hectares de végétation. En Espagne, des incendies ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares. Des décès sont signalés. La quasi-totalité du pays est en alerte de risque extrême d'incendie. Dans le centre et le nord du Portugal, quelques 800 pompiers luttent toujours pour éteindre 4 incendies.
L'Union européenne discute d'un renforcement des sanctions contre Moscou pour son invasion de l'Ukraine lors d'une réunion aujourd'hui à Bruxelles des ministres européens des Affaires étrangères. Jacques Aristide.
Pour le patron de la diplomatie européenne, la reprise des exportations de céréales depuis l'Ukraine est une question de vie ou de mort. Josep Borrell ajoute avoir espoir qu'un accord soit trouvé cette semaine pour débloquer le port d'Odessa. L'Union européenne entend poursuivre sa pression sur Moscou avec de nouvelles sanctions, de même qu'un soutien financier et militaire à l'Ukraine, indique Josep Borrell. Quant au chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, il appelle à ses homologues de l'UE à ne pas céder à Vladimir Poutine sur les sanctions contre la Russie, car reculer et se plier aux exigences du président russe ne fonctionnera pas. C'est un piège, selon le ministre Kuleba. Sur le terrain, alors que la Russie poursuit ses bombardements sur des villes ukrainiennes, le président Volodymyr Zelensky a limogé le chef des services de sécurité, Ivan Bakanov, et la procureure générale, Irina Venediktova. Kiev a fait état de soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit des Russes. Madame Venediktova a notamment dirigé l'enquête sur les atrocités présumées commises au début de l'invasion par les troupes russes dans la ville de Boutcha, devenue aux yeux de l'Occident un symbole des crimes de guerre russes en Ukraine.
Merci Jacques. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau menacé aujourd'hui de geler l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN si elle ne se plie pas aux conditions posées par la Turquie. Lors du sommet de l'OTAN fin juin à Madrid, M. Erdogan avait sommé les deux pays nordiques de prendre leur part dans la lutte contre le terrorisme dont il accuse les organisations kurdes dans le nord de la Syrie. Ici aux États-Unis, la justice américaine entame ce lundi la sélection des jurés au procès de Steve Bannon, un ancien proche de Donald Trump accusé de ne pas coopérer à l'enquête parlementaire sur l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. À l'approche de son procès, cet homme de 68 ans avait fait volte-face et accepté de coopérer avec les parlementaires. Un homme armé a ouvert le feu ce dimanche dans une aire de restauration d'un centre commercial de l'État américain de l'Indiana, faisant 3 morts avant qu'un passant muni d'une arme abatte l'assaillant. 2 autres personnes ont été blessées dans la fusillade, survenue en début de soirée au Greenwood Park Mall. Selon le chef de la police locale, l'assaillant était seul et muni d'un fusil ainsi que de plusieurs chargeurs de balles. Anthony Fauci, l'expert en maladies infectieuses le plus éminent des États-Unis, qui a été le visage de la réponse à la pandémie de coronavirus pendant plus de 2 ans, va prendre sa retraite d'ici à la fin du mandat du président Joe Biden, après plus de 50 ans de service, a-t-il confirmé lui-même aujourd'hui au Washington Post.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, un des groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015, dit déplorer son abandon par les autorités de la transition. C'est à l'issue d'une réunion tenue à Kidal, dans le nord, en présence des autorités maliennes et des représentants de la MINUSMA. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Dans son communiqué, la coordination des mouvements de l'Azawad affirme suivre avec beaucoup d'inquiétude la dégradation continue de la situation sociopolitique au Mali. La CMA dit condamner toutes les formes de violence et de terreur exercées sur la population civile et déplore l'absence d'une réponse appropriée à cette situation. Elle parle d'abandon de la mise en œuvre de l'accord d'Alger depuis l'avènement de la transition et dit se réserver le droit d'en tirer toutes les conséquences. En mars, la CMA disait regretter l'absence de progrès dans la mise en œuvre de cet accord. L'accord d'Alger prévoit l'intégration d'ex-rebelles dans les forces de défense maliennes et une plus grande autonomie des régions. À l'issue de la réunion, Al-Gabas Ag Intala a remplacé Bilal Ag Achérif à la tête de la CMA. Le nouveau patron de cette alliance de groupes Touareg et nationalistes arabes du Nord est un proche du chef Touareg Iyad Ag Gali, qui a été à la tête de toutes les rébellions et présenté aujourd'hui comme le dirigeant du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
Dans le nord du Burkina Faso, 10 de civils ont été tués dimanche dans une attaque de djihadistes présumés contre des populations à Gisengori, ont indiqué aujourd'hui des sources sécuritaires. La localité de Gisengori se trouve dans la province de Yara, frontalière du Niger, l'une des zones les plus touchées par les violences djihadistes dans le pays. Toujours au Burkina, des hommes armés non identifiés ont commis des actes de sabotage d'infrastructures routières. Le pont de Oussé et celui de Naré, dans le centre-nord du pays, ont été endommagés, rendant impossible les accès aux villes de Djibo et Dori. Le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
Le week-end écoulé a été marqué par des actes de sabotage de certaines infrastructures routières. Vendredi dernier, le pont de Oussé sur la nationale numéro 22 a subi une destruction. Le trafic routier a été perturbé car ce pont situé entre Kongoussi et Bourzanga est le principal moyen pour accéder à la ville de Djibo. Un convoi de ravitaillement pour le Sahel et escorté par des forces de défense et de sécurité a dû rebrousser chemin. Une autre infrastructure dans la localité de Naré, sur l'axe Kongoussi-Dori, a été aussi dynamitée. La destruction de ce pont près de Tougouri, sur la nationale numéro 3, isole la ville de Dori des régions militaires de Ouagadougou et Kaya. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration avait déclaré 2 zones d'intérêt militaire, laissant présager des offensives contre des groupes armés. La destruction des ponts va rendre plus difficiles les opérations terrestres. Kader Traoré à Ouagadougou pour VOA Afrique.
2 prêtres catholiques nigériens ont été enlevés dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays, après près de 2 semaines après l'enlèvement d'un autre religieux dans la même région. Les pères John Mark Chetnum et Donatus Cleopas ont été enlevés dans la ville de Léré après leur prise de fonction paroissiale à l'église catholique Christ the King. Au début du mois, dans ce même état, un prêtre a été kidnappé dans son presbytère alors que des paroissiens attendaient pour la messe du matin. Le vice-président kényan William Ruto, qui n'est pas soutenu par le président sortant Uhuru Kenyatta pour l'élection présidentielle du 9 août, a affirmé aujourd'hui croire en sa victoire, estimant que son pays est une démocratie où les élections ne sont pas manipulées. Aujourd'hui âgé de 55 ans, Ruto s'était initialement vu promettre de succéder en 2022 au président en sortant. Et puis, des députés britanniques ont estimé aujourd'hui que le projet de Londres d'expulser vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement est loin d'avoir l'effet dissuasif escompté contre les traversées de la Manche et plaide pour un examen en France des demandes d'asile. Le gouvernement britannique a conclu un accord avec le Rwanda, mais aucune expulsion n'a encore eu lieu. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
La Banque africaine de développement a approuvé un financement de 5,39 millions de dollars pour aider le Togo à soutenir les agriculteurs face à la forte hausse des prix des engrais. 25 500 producteurs, dont 40% de femmes, vont recevoir 500 tonnes de semences et 7 700 tonnes d'engrais, selon la BAD. Le pays veut produire 37 500 tonnes de céréales supplémentaires sur deux saisons pour garantir la sécurité alimentaire. Au Sénégal, la banque agricole va lancer son offre de financement Wulmal Mbaye pour les producteurs, qui portera notamment sur des systèmes de pompage et d'irrigation solaire afin de réduire l'impact du climat sur l'agriculture. En 2020, LBA est devenue la première banque commerciale sénégalaise accréditée au Fonds vert pour le climat. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu le premier ministre italien Mario Draghi à Alger, avec lequel il co-préside le quatrième sommet algéro-italien. La Sonatrach gère avec le groupe italien Eni le gazoduc Transmed qui relie les deux pays via la Tunisie. Depuis janvier, l'Algérie a livré à l'Italie plus de 13 milliards de mètres cubes de gaz à l'Italie et prévoit une augmentation de 4 milliards de mètres cubes dès cette semaine.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Athlétisme pour commencer avec les championnats du monde qui ont lieu à Eugene, ici aux États-Unis.
Oui, l'Afrique compte des médailles après 4 jours de compétition. Ce lundi, l'Éthiopienne Gotiton Gebreselassie a été sacrée championne du monde du marathon en 2h18 minutes 11 secondes, record personnel devant la Kenyane Judith Cheptoum Korir et l'Israélienne Lona Shemtai. À 27 ans, Gebreselassie s'offre son premier titre majeur avec un record des championnats du monde au lendemain de la victoire déjà éthiopienne dans le marathon masculin avec Tamirat Tola.
Justement, hier, l'or est aussi revenu à une Éthiopienne en finale du 10 000 mètres.
Letesebet Gidey s'est imposée en 30 minutes 9 secondes et 94 centièmes. Elle devance les Kenyanes Hélène Obiri et Margaret Kipkemboi. Chez les hommes, l'Ougandais Joshua Cheptegei est resté le patron du Fonds international avec une victoire sur le 10 000 mètres, son deuxième titre mondial consécutif. Recordman du monde de la distance depuis octobre 2020, Cheptegei s'est imposé en 27 minutes 27 secondes 43 centièmes. Le jeune Kenyan Mburu, 22 ans, a créé la surprise en prenant l'argent pour valider un premier podium international devant son compatriote Jacob Kiplomo, 21 ans, médaillé de bronze olympique.
Football, les demi-finales de la CAN féminine Maroc 2022 se disputent ce lundi.
L'Afrique du Sud, finaliste de l'édition précédente, joue la Zambie. Mission compliquée pour le pays hôte, le Maroc qui fait face au champion en titre, le Nigeria. A noter que ces quatre demi-finalistes seront les représentants du continent à la prochaine Coupe du Monde féminine prévue en juillet-août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Victime de chantage, le Malien Cheikh Doucouré bénéficie du soutien de son coach.
L'entraîneur de Crystal Palace dit apporter son soutien à sa nouvelle recrue, le milieu malien Cheikh Doucouré, venu de Lens, victime de chantage depuis sa signature dans le club anglais. Dimanche, l'avocat de Doucouré, Alexis Routman, a indiqué que le joueur et son entourage sont les cibles d'un chantage et de menaces d'extorsion venant de plusieurs personnes. Ces personnes affirment avec des preuves falsifiées que mon client aurait une double identité et demandent le paiement d'une somme d'argent contre leur silence. Soutient l'avocat, auteur d'une belle saison avec Lens, Cheikh Doucouré, 22 ans, a été transféré de Lens à Crystal Palace pour un montant estimé à environ 23 millions d'euros. Et cette dernière info en football, l'inoxydable Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, a prolongé son contrat d'une saison avec l'AC Milan jusqu'à juin 2023
annonce le club lombard.
Page de sport VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Lyon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Bénin, une statue de 30 mètres érigée non loin de la présidence, sculptée depuis 2019 par l'artiste chinois Li Jiankun, sera inaugurée pour la célébration de la fête de l'indépendance. Cette statue est au cœur d'une polémique entre Béninois sur les réseaux sociaux. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Haute de 30 mètres, la statue de l'Amazone, qui serait la deuxième plus grande d'Afrique après celle de la Renaissance au Sénégal, fait couler beaucoup d'encre et de salive alors qu'elle n'est même pas encore inaugurée. Certains apprécient l'hommage à la femme béninoise, d'autres voient de l'argent jeté par les fenêtres qui aurait pu servir à autre chose.
Je l'ai vivement apprécié, moi, parce que ça nous rend hommage. Surtout à nous, les femmes qui nous battons depuis des lustres, cela nous rassure.
Et on a fait l'Amazone pour, au nom de toutes les femmes battantes.
Beaucoup veulent savoir le nombre de millions que le gouvernement a injecté pour la réalisation de cette statue. Oui, c'est vrai. Le gouvernement doit nous donner des explications.
L'autre polémique est née d'une déclaration faite par Candide Azanahi, ancien ministre de la Défense de Patrice Talon. Il a déclaré que le nom donné à cette statue, je cite, est une grave méconnaissance de l'histoire du Bénin. Il souligne que c'est une inculture de prétendre qu'une Amazone peut figurer comme référent dans l'art identitaire du Bénin. Pour lui, cette statue doit être rasée parce qu'elle a tout d'injurié de dévalorisant pour la femme béninoise. Selon l'ancien ministre, Amazone signifie prostituée, une esplanade des prostituées en Afrique et c'est en République du Bénin, a-t-il déclaré. Pourtant, l'histoire répète que Béanzin, le dernier roi d'Abomey, avait une élite dans son armée composée de femmes qu'on a surnommées les Amazones.
Les femmes, elles ont joué leur rôle dans l'histoire. Ce que d'autres hommes n'auraient pas pu faire, elles ont fait ça. Elles ont été dignes. Elles ont joué leur rôle en tant que femmes guerrières. Personne ne vous dira qu'une femme Amazone, c'est une femme prostituée. Je doute que vous ayez une connotation du genre en ce qui concerne ces femmes-là.
Le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a souligné que le gouvernement se réjouit de l'intérêt que suscite la statue de l'Amazone, preuve que ces guerrières d'une autre époque font partie intégrante de l'histoire du Bénin.
Les Béninoises, nos femmes, nos mères, nos filles d'hier qui ont su, avec courage et bravoure, défendre les frontières d'un royaume et qui tous les jours, à travers le marché, à travers leur engagement citoyen. Donc cette esplanade, oui, c'est une ode à la femme béninoise moderne.
Malgré ces précisions, les avis restent partagés sur le symbolisme de cette statue métallique ornée de bronze qui supplante le palais de la présidence. Toutes ces retrouvailles avec le passé interviennent au moment où la France, ancienne puissance coloniale, a commencé à rendre tous les objets pillés au palais de Béanzin. Le dernier roi d'Abomey, mort en déportation à Alger. De Cotonou, je n'ai plus à attendre pour VOA Afrique.
En Somalie, armée de téléphones mobiles, de trépieds et d'ordinateurs portables, l'équipe de Bilan Media, une start-up somalienne entièrement composée de femmes, a pour mission de briser le silence autour de la violence sexiste. La petite agence est une rareté dans ce pays conservateur et son nom Bilan veut dire « beauté en Somalie ». Elle est financée par le PNUD et opère depuis les bureaux de Dalsan, une station de télévision et radio populaire à Mogadiscio. Le point avec Dili Diko.
Nasrin Mohamed Ibrahim n'est pas en train de prendre un selfie, mais elle documente Mogadiscio sous un angle différent. Nasrin est la rédactrice en chef de Bilan Media, une start-up entièrement féminine couvrant des sujets que personne ne veut raconter. Elle parle des femmes. Écoutons Nasrin Mohamed Ibrahim.
Chez Bilan Media, nous nous concentrons sur les histoires qui sont cruciales pour les communautés somaliennes dans lesquelles nous vivons. Ces histoires traitent d'expériences que les gens pensent être normales, mais ce sont des problèmes qui ne font pas l'objet d'une investigation approfondie. Si cela pouvait être recherché et diffusé, alors nous pourrions trouver des solutions pour l'avenir.
Les 6 femmes journalistes qui travaillent chez Bilan sont en charge de toutes les étapes de la production, du tournage à l'interview en passant par le montage. Leur couverture reflète ce que c'est que d'être une femme dans ce pays conservateur. Et elles font de nombreux profils de femmes somaliennes connues. Mais environ 80% des vidéos qu'elles produisent portent sur des sujets tels que la violence sexuelle et domestique, des sujets dont elles disent que les gens ont souvent trop honte de parler. Choukri Mohamed Abdi est l'une des journalistes de Bilan Media.
En tant que femme journaliste somalienne, nous encourageons et défendons les droits des femmes sans voix.
La Somalie n'a pas encore adopté son premier projet de loi sur les infractions sexuelles. Il est en préparation depuis près d'une décennie. Les auteurs sont rarement poursuivis et les victimes peuvent parfois faire face à des critiques. Il est donc difficile de faire parler les femmes. Fadouma Abdulkadir Hassan est fan de Bilan Media.
C'est une excellente start-up pour la société, en particulier pour les femmes. Elle essaie de couvrir les besoins des femmes car elle donne la parole aux sans-voix et se concentre sur les histoires de femmes vulnérables. Je pense que c'est vraiment important en ce moment.
Les journalistes de Bilan travaillent dans les bureaux de Dalsan, une station de télévision et radio populaire basée dans la capitale somalienne. Mais à Bilan, les choses sont faites un peu différemment. À nouveau, Nasrin Mohamed Ibrahim, rédactrice en chef de Bilan Media.
Bilan est différent des autres stations radio et télévision locales. Nous proposons des sujets très peu couverts et notre objectif est de sensibiliser aux problèmes sociaux. Nous nous concentrons également sur les vidéos filmées sur des téléphones mobiles. Au fur et à mesure que le monde se développe, nous nous attendons à ce que les caméras disparaissent. Nous voulons évoluer avec notre temps.
L'agence Bilan a été lancée en avril 2022 et l'équipe affirme qu'à ce jour, la réponse du public a été positive et encourageante. Dans un monde dominé par les hommes, ces femmes journalistes aspirent au changement.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, nous faisons le bilan de la première tournée de Joe Biden au Moyen-Orient en tant que président des États-Unis. Le périple avait notamment pour objectif de raffermir le rôle de l'Amérique dans cette partie du monde avec des attentes concernant les prix du pétrole, de même que les droits humains. Quels sont les résultats de ce voyage de l'actuel locataire de la Maison-Blanche ? Y a-t-il eu des avancées notables et des percées diplomatiques ? J'attends vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Durement touchée par la flambée mondiale des prix de céréales, la Tunisie, qui importe 66% de ses céréales consommées, veut réduire sa dépendance. Elle continue d'importer du blé pour son pain, mais vise l'autosuffisance en blé dur, ingrédient essentiel de l'alimentation dans le Maghreb, pour les couscous et les pâtes, dont les Tunisiens sont les seconds consommateurs au monde derrière les Italiens. Les agriculteurs au nord de la capitale Tunis sont toutefois pénalisés par du matériel délabré et un manque de financement. Nani Talani.
Dans son champ des plaines ensoleillées de Sebalet Ben Ammar, au nord de Tunis, l'agriculteur Mander Matali contemple une étendue d'épis de blé dur qui se courbe avant de démarrer sa vieille et bruyante moissonneuse-batteuse, susceptible de le lâcher à tout moment. Mander Matali en appelle à l'aide du gouvernement.
Nous demandons à l'État de prendre en considération la situation des petits agriculteurs afin de les aider à changer ce matériel qui est très cher. Le petit agriculteur ne parvient pas à acheter du matériel comme les machines ou tracteurs. Il préfère louer pour une année ou la laisser en jachère jusqu'à ce qu'elle ne soit plus ensemencée. Sincèrement, cela deviendra une terre abandonnée. Pourquoi ?
Remplacer sa moissonneuse-batteuse, même sur le marché de l'occasion, coûterait quelque 150 000 euros. une somme inaccessible pour de nombreux petits agriculteurs tunisiens. L'unique solution, une bonne politique agricole gouvernementale. De nouveau, Monder Matali.
S'il y a une volonté de l'État, une politique agricole de l'État, nous, les petits agriculteurs, nous pouvons augmenter la production de 50 à 90% si l'État nous subventionne au niveau du matériel, des pièces détachées, sur l'ammonitrate, des insecticides.
L'homme, comme de nombreux autres agriculteurs qui peinent à trouver ou acheter des pièces de rechange, vit dans la hantise d'une panne mécanique majeure qui se traduirait par la perte de la totalité de sa récolte. Or, une aide de l'État pourrait positivement changer la donne, comme l'explique Saïda Beldi du ministère tunisien de l'Agriculture.
Si l'État participe un peu à l'achat des outils agricoles et des intrants, qui sont deux facteurs qui peuvent augmenter la production, cela incitera les agriculteurs à se développer. Il faut encourager l'agriculteur. Si cette année il sème 10 hectares, l'année suivante il en sèmera 20.
La Tunisie compte environ 3000 moissonneuses-batteuses, dont 80% sont vieilles et très gaspilleuses, ce qui représente un important manque à gagner, reconnaît Faten Kamati, chef du cabinet du ministre de l'Agriculture. Elle assure aussi que son ministère prévoit de soutenir les coopératives agricoles pour acheter des moissonneuses-batteuses à usage collectif et aider les agriculteurs à se procurer de meilleures semences, à obtenir une assistance technique et des prêts garantis par l'État.
Les deux piliers, c'est le conseil et le financement. On doit fournir le financement, à un niveau de financement qui permet d'acquérir les intrants, les produits, tout ce qui travaille de la terre, ça coûte cher, donc le carburant coûte cher, tout est devenu cher pour l'agriculteur. Donc le financement, il est là, et le conseil.
Depuis avril, le gouvernement tunisien a dévoilé une série de mesures pour améliorer la situation dans l'espoir d'atteindre la peine. Dans l'espoir d'atteindre la pleine autosuffisance en blé dur d'ici 2023. Objectif, passer de 760 000 à 800 000 hectares semés en blé dur.
L'aggravation de la sécheresse dans l'ouest des États-Unis a entraîné de nouvelles restrictions sur l'utilisation de l'eau en Californie du Sud. Génia Doulo nous explique depuis Los Angeles comment les autorités appliquent ces nouvelles restrictions et comment certains jardiniers s'adaptent. Le récit est d'Arzuma Kumpaori.
Les pelouses vertes et luxuriantes sont la marque de fabrique de nombreux quartiers de Californie. Mais après des années de sécheresse, une grande partie du comté de Los Angeles limite l'arrosage de ces pelouses à seulement deux fois par semaine. Ici, dans le district municipal Water de Las Virgenias, les résidents ne peuvent activer leur arroseur qu'une fois par semaine, car la région ne dispose pas d'eau souterraine locale. Ricky Clark, associé aux artères publiques, explique que le rationnement est nécessaire, car plus de 70% de l'eau du district est utilisée à l'extérieur.
Pour les clients dont l'adresse se termine par un nombre pair, leur jour désigné d'arrosage, c'est le mardi. Et pour nos clients dont l'adresse se termine par un nombre impair, c'est le jeudi. Ils ont tous droit à 8 minutes par jour, par station.
Le personnel du district fait respecter les règles en contrôlant qui arrose et quand. Les contrevenants reçoivent d'abord des avertissements, puis ils paient des pénalités. Si les infractions se poursuivent, leur approvisionnement est réduit à un gallon par minute. Kayson Gilmer, représentant du service clientèle du district, a mis au point le limiteur de débit.
L'évier de la cuisine ne fera pas vraiment la différence lorsque le limiteur est en place. Dans la douche, par contre, on peut ressentir la différence. Vos douches ont généralement un débit de 2,5 gallons par minute. Donc, le débit y est un peu plus faible. Mais vous pouvez toujours vous doucher. Vous pouvez toujours cuisiner. La vie intérieure est gérable avec ça. À l'extérieur, ce petit trou ne vous donnera pas assez de débit pour pouvoir mettre en marche votre système d'irrigation.
Certaines personnes s'éloignent de l'arrosage extérieur systématique. Sarah Larivière a acheté sa première maison il y a un an avec l'idée de supprimer la pelouse verte existante et de créer son propre espace rempli de fleurs sauvages et de plantes indigènes tolérantes à la sécheresse.
J'ai fait énormément de recherches pour savoir où je pouvais trouver des plantes qui se développent dans le comté de Los Angeles sans beaucoup d'eau. Je suis allée à la Theodore Payne Native Plant Foundation Ils ont une pépinière et des cours. J'ai suivi un cours pour comprendre comment arroser les plantes indigènes et j'ai passé beaucoup de temps à regarder les plantes indigènes là-bas.
Madame Larivière a utilisé une remise californienne pour le remplacement du gazon pour couvrir le coût de l'installation de son nouveau jardin résistant à la sécheresse. Les restrictions d'arrosage n'ayant pas de fin en vue ici, certaines personnes déterminées à conserver leur pelouse verte les voient jaunir.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.